Vous écoutez Ainsi soit-elle. Sur les ondes de CKIA FM, vous écoutez Ainsi soit-elle.
Oui, Ainsi soit-elle pour la nouvelle saison de CKIA à l'hiver. On est super contentes d'être là, Evelyne, Tiphaine et Marie. Et puis, ce soir, on va vous parler de plein de choses. Tiphaine, qu'est-ce qu'on avait au programme?
On va vous parler, entre autres, du film qui devrait sortir très bientôt, qui s'appelle « L'industrie du ruban rose » de Léa Poul, et puis un petit peu de tout ce qui se passe autour de ce thème-là, donc les levées de fonds effrénées pour la lutte au cancer du sein. On va avoir une actualité politique qui est féministe, si je ne m'abuse.
Hélène qui est là.
D'abord, d'une chanteuse de soul qui est décédée, que j'aime beaucoup, Etta James. Donc, une petite chronique nécrologique sur elle pour lui rendre hommage. Et également, vous avez sûrement entendu parler, ça l'a passé beaucoup dans les journaux, de la mort d'un sans-abri à Montréal. Et il y a des camarades de No One's Illegal qui en ont parlé, qui ont écrit un article, en fait, sur Farshad Mohammadi. Puis j'avais envie de partager leur analyse parce que ça fait vraiment le pont entre l'analyse capitaliste, anticolonialiste, qu'on aime beaucoup à Ainsi soit-elle. Donc, ça va être ça pour moi.
Excellent. Et puis, on va finir le tout avec un calendrier militant, comme à l'habitude. Donc, on commence en musique avec une chanson de Kim, je ne sais pas son nom de famille parce que c'est trop compliqué à prononcer, mais c'est pas mal bon.
She's the first one of her kind and the last one in her line. She's a creature so rare, you can't be sure she's really there. Hey, hey, hey. She's the impossible girl. You can look but you can't touch, because she feels it all so much. And her fire burns so bright, you'll have to hide from her light. Hey, hey. She's the impossible girl. Without a word she broke your heart, just one look and you fell apart. She turns your world upside down, even when she's not around. Hey, hey, hey. She's the impossible girl. Hey, hey. She's the impossible girl.
One, two, buckle my shoe.
carry the seven, twirl your partner, square root of 11. Fellas, ladies, listen quick. Now you do some arithmetic, go 5 plus 3. You and me, we can go on a date. Now 5 minus 3. Oh honey, that's me plus you. Well, I don't care for looks and I don't like money and I never met a car. I don't wanna call, honey, don't sex drugs. A nuclear physics for me. Sex drugs and the theory of relativity. Sex drugs, particle accelerators by the sea. Sex and drugs and quantum calculations for me.
Vous êtes toujours sur les ondes de CKIA FM et c'est Ainsi Squattel qui est avec vous. On vient d'entendre une chanteuse qui s'appelle Kim Brokebender, Binder, on ne sait pas trop comment ça se prononce. Et comme la première chanson était très courte, The Impossible Girl, on a aussi entendu Sex, Drugs and Nuclear Physics. Ça donne
rock and roll.
Rock and roll. Mais c'est pas
nucléaire,
ça.
Wow.
Voilà, du sexe, de la drogue et de la physique nucléaire. Tout ce dont on a besoin. Donc, après ce départ un petit peu plus humoristique, on continue avec l'autre sujet super humoristique du jour, c'est-à-dire le cancer du sein. En fait, c'est un sujet qui est toujours d'actualité parce qu'on le voit partout. Il y a toujours plein de patentes roses un peu partout pour la lutte contre le cancer du sein. Puis c'est particulièrement d'actualité parce que dans quelques jours, le 3 février, c'est la sortie du film L'industrie du ruban rose de Léa Poule, qui est une réalisatrice canadienne bien connue. Et puis c'est un film qui est attendu avec beaucoup d'impatience, qui est en nomination au Festival international des films de Toronto. Et puis, que moi, je vais aller vous voir certainement parce que je trouve ça super intéressant. J'ai lu pas mal de... Et puis, j'ai regardé le preview comme bien d'autres. Et puis, j'ai lu plusieurs critiques du livre sur lequel ce film-là s'est basé. Et puis, d'autres articles qui parlent un petit peu de la question de la marchandisation du cancer du sein, qui est devenu une espèce de cause hyper médiatisée, puis c'est devenu une vraie industrie, donc depuis les années 80, au moment où une femme qui était une survivante du cancer du sein avait pensé que ça serait bien d'avoir un symbole pour montrer l'importance de la lutte et de la recherche contre le cancer du sein, et puis qui avait proposé d'avoir un ruban de couleur saumon et qui avait commencé à le montrer ou à le diffuser. Et puis Estée Lauder, qui est une directrice de compagnie de cosmétiques, est allée la voir en lui disant qu'elle devrait faire un partenariat pour diffuser plus largement ce ruban-là, qui était fort intéressant. Et puis, la femme, Charlotte Haley, a décidé que non, ça avait aucun sens parce qu'elle trouvait pas que son objectif d'essayer de faire parler de cette maladie-là et puis de promouvoir la recherche, ça liait bien avec les visées vraiment plus marchandes d'Estée Lauder. Et puis finalement, ce qu'elle a fait cette dernière, c'est de dire, ben, on a juste à changer la couleur puis on va bien pouvoir faire ce qu'on veut avec le maudit ruban. Et c'est ainsi qu'est né le ruban rose. Et puis donc, plusieurs années plus tard, après des courses qui, par exemple, en 2005, ont amené plus d'1 million de femmes et un peu d'hommes à participer donc à des courses et des marches, et il y a aussi des tonnes et des tonnes de produits qui sont peinturlurés en rose pour la lutte au cancer du sein. Donc ça va vraiment des trucs les plus basiques comme un stylo ou une paire de gants jusqu'aux trucs les plus absurdes comme des Mustangs, des fusils même aux États-Unis ou des barils de cuisses de poulet frit de chez Poulet Frit Kentucky.
Oh yeah.
Ouais, il y a vraiment de
on
tout pour tout le monde.
On est pas loin de Movember.
Je pense qu'on est largement dépassé Movember ici. Et puis donc, une professeure en éducation physique et en santé à l'Université de Queens à Kingston, en Ontario, qui s'appelle Samantha King, qui a publié en 2005 un livre qui parle de cette industrie-là, qui s'appelle Pink Ribbon Inc. Et puis, où elle explore donc le phénomène marketing du ruban rose, puis la croissance de l'entreprise qui chapeaute tout ce phénomène-là, qui s'appelle Pink Ribbon Incorporé. Et puis, donc, toutes les levées de fonds que ces gens-là font. Et puis, elle, est, son analyse, c'est que tout le battement médiatique qu'il y a autour de l'idée qu'il faut trouver un remède contre le cancer du sein, en fait, c'est tout à fait, tu sais, c'est néfaste aux efforts qu'il faut qu'ils soient faits pour comprendre les causes du cancer du sein, puis aussi faire de la prévention. Puis, c'est particulièrement problématique parce que ça met, ça désavantage des femmes qui n'ont pas les moyens de se payer les traitements qui existent, qui sont pas toujours adéquats, mais qui peuvent aider certaines femmes. Mais donc, la prévention serait d'autant plus importante pour avoir une gestion plus égalitaire de cette épidémie-là.
Ouais, puis c'est aussi que je pense en termes de recherches qui sont faites justement sur le cancer du sein, il y a vraiment une minorité des recherches qui sont faites sur les causes de ce problème-là, puis du coup, une minorité, c'est quoi, à peine 10%, je pense. Du coup, tout le reste, c'est sur des développements des médicaments ou des nouvelles thérapies, donc des choses qui rapportent à des lobbies pharmaceutiques. Donc, on s'intéresse pas à la base du problème, là, non plus.
Non, c'est ça, on essaie de régler le problème, soi-disant, en développant des médicaments. Puis tout ça se fait main dans la main avec des compagnies qui prétendent soutenir la recherche contre le cancer, mais qui, en fait, mettent de l'avant des produits qui sont eux-mêmes cancérigènes. Donc, ça, c'est un autre problème assez majeur. Donc, le livre de Samantha King, que je n'ai pas lu, mais qui semble vraiment intéressant, se penche donc sur les facteurs de genre, de classe et de race qui rentrent en ligne de compte dans tout ce problème-là. Et puis, ensuite, donc, le film qui va sortir le 3 février est basé sur ce livre-là, mais se penche surtout sur l'aspect marketing. On voit plusieurs intervenantes, soit des femmes qui sont des survivantes du cancer du sein ou aussi des femmes qui simplement sont malades du cancer du sein et ne veulent pas se lancer dans toute l'espèce de joie d'être une survivante et tout ça, puis qui se sentent plutôt insultées par le type d'événements qui sont mis sur pied par les fondations Ruban Rose, là. Entre autres, une des personnes qui est les plus connues dans le film, c'est Barbara Ehrenreich, qui est une auteure assez connue, qui avait écrit un livre sur Walmart, puis sur vivre au salaire minimum, là, qui avait plusieurs mois à vivre au salaire minimum, puis à documenter son expérience. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Welcome to Cancerland », après avoir elle-même été diagnostiquée du cancer du sein. Et puis, il y a plein de trucs intéressants qu'elle dit, mais entre autres, quand on va sur la page du film, on voit une citation de Madame Ehrenreich où elle dit « Autrefois, les gens manifestaient dans les rues. Aujourd'hui, il faut courir, marcher, grimper ou que sais-je encore au profit de la recherche d'un traitement. Quoi qu'il en soit, cette culture du ruban rose a eu pour effet de drainer et de détourner le militantisme des femmes qui sont consternées d'apprendre qu'elles ont une maladie épidémique dont nous ne connaissons même pas la cause. » Puis elle a d'autres propos très intéressants, entre autres de dire que ça fait chier de se faire offrir un toutou rose quand t'es diagnostiqué avec une maladie mortelle qui est mal connue puis qui est hyper commune. Et puis, cette vision-là est partagée par d'autres femmes qui sont atteintes du cancer, particulièrement des femmes qui sont en phase terminale puis qui sont pas qui seront pas des survivantes dans des événements qui mettent en valeur, tu sais, survival, mais qui, je veux dire, les gens meurent, puis même les gens qui meurent pas, ben c'est pas vrai que c'est un truc qui est super beau, qui est rose, puis qui est le fun, puis qui a plein de sourires, puis tout. Parce que mourir du cancer, c'est vraiment... Puis même survivre du cancer, ça implique quand même une bataille qui est pas... rose et dans la joie, puis qui a plutôt tendance à être dégueulasse et triste
puis
et
où
terrible.
Ton corps, justement, après, va pas être rose pour les survivantes. Hein. Il y a une photo, entre autres, qui circule en ce moment sur le net, où on voit une photo d'une femme qui a survécu au cancer du sein, puis avec les cicatrices, puis je la trouvais belle, dans ce que ça nous fait comme effet, justement, de dire, ben c'est ça la réalité, puis cette réalité-là est vraiment pas rose.
Non, c'est ça. Mais d'ailleurs, ce projet-là dont tu parles, on pourra peut-être en reparler après une pièce musicale. Et puis, donc c'est ça, au retour, je vous parlerai du Scar Project. Qu'est-ce qu'on écoute, Evelyne?
On va écouter Lola, la version que tu nous as préparée.
Yeah!
I met her in a club down in Oxford. Where they drink champagne and it tastes just like cherry cola. C-O-L-A cola. She walked up to me.
sur les ondes de CKIA FM. Vous êtes toujours à l'écoute d'Assis Squatel. Puis on vient d'entendre une chanson qui s'appelle Lola, qui était interprétée par un groupe qui s'appelle les Raincoats. Mais c'est une reprise des Kinks. Puis moi, j'étais vraiment, vraiment, vraiment contente de trouver cette version chantée par un groupe de filles. Puis une version que je trouve qui est particulièrement bonne, en fait. Presque aussi bonne que l'original. Et qui est une chanson que je voulais mettre depuis longtemps, Squatel. Parce que j'adore cette chanson-là. Donc... J'ai des choix musicaux plutôt.
Ah, moi, je suis d'accord, j'adore. Je soutiens et j'appuie.
Pour notre thème déprimant du jour, avant la chronique nécrologique, on continue à parler de cancer. Comme Hélène commençait à en discuter avant la chanson, il y a un projet qui circule en ce moment sur le web qui s'appelle le Scar Project, qui... essaie de mettre en valeur des femmes qui ont survécu au cancer du sein, mais qui, comme tu le disais, sont pas nécessairement dans un état tout beau, tout rose, tout heureux, parce que la majorité d'entre elles ont subi des mastectomies, donc ont perdu un ou deux de leurs seins et se retrouvent avec des cicatrices. Certaines ont encore des seins qui, je suppose, une fois couverts, ressemblent à un sein moyen, si ça existe. Mais... Donc, on voit que quand même qu'elles ont des cicatrices assez importantes. Et puis, il y a un photographe qui s'appelle David J. qui les a prises en photo. Puis, c'est des photos en noir et blanc qui sont assez intenses. Et puis, c'est des femmes qui ont entre 18 et 35 ans parce que pour les femmes entre 18 et 35 ans, le cancer du sein, c'est la première cause de mortalité, mais pourtant, c'est un groupe qu'on n'imagine pas toujours associé au cancer. Donc, cet aspect-là, moi, j'ai trouvé ça fort intéressant. C'est sûr qu'on reste quand même dans un peu dans la glorification de la beauté des femmes qui ont le cancer, mais bon, ou qui ont eu le cancer, mais c'est tout de même une façon d'approcher ça qui est nettement plus... réaliste, je dirais. Donc, c'est un projet qui vaut la peine d'être vu. Puis, il y a un livre et une exposition qui se promène, mais le site web est très intéressant. C'est au www.thescarproject, donc thescarproject.org. Donc, ça vaut la peine d'aller voir ça. Voilà, je pense que ça fait le tour pour la chronique cancer du jour. Puis j'ai essayé de trouver d'autres projets qui étaient critiques de l'industrie du ruban rose, mais pour l'instant j'ai pas trouvé d'autres choses. Mais j'aimerais bien vous revenir avec des projets qui sont pensés et réalisés par des femmes, mais ça sera pour une autre fois. Donc d'ici là, on va continuer en musique. Avec je ne sais pas quoi.
Oui, c'est une pièce d'Amanda Palmer qui s'appelle Map of Tamania.
Walking down the street, I'm the lady, oh, showing off my map of Tasmania. Walking down the street, I'm the lady.
Vous êtes toujours sur les ondes de CKIA FM à l'émission Ainsi squat-elle, et là on s'en va avec Hélène qui va nous faire une chronique en hommage à Etta James qui est décédée il y a peu.
Oui, en fait, je vais vous parler de la légendaire chanteuse de blues, de soul et de jazz Etta James. Elle est décédée vendredi à l'âge de 73 ans dans un hôpital de Riverside en Californie des suites d'une leucémie. Son vrai nom c'était James Etta Hawkins et elle est connue en fait pour plusieurs tubes dont je vais vous parler qu'elle a fait, mais ça a été vraiment une source d'inspiration pour de nombreuses chanteuses comme par exemple Janis Joplin ou Tina Turner. C'est clairement une influence qu'on peut à côté de laquelle on ne peut pas passer. Donc peut-être pour revenir un peu, vous la faire connaître, hein, maintenant qu'elle nous a quittés. On parle d'elle, voilà. Donc elle avait seulement 5 ans quand elle a fait ses premiers spectacles, donc ses débuts à l'église Saint-Paul-Baptiste de Los Angeles. En fait, ça c'est un parcours assez, pas traditionnel, mais assez commun pour les chanteuses afro-américaines, donc de commencer d'abord de se faire connaître dans les chorales, dans les églises. Ça a été le cas pour elle également. Ça m'a fait penser aussi à Alice Robbie, par contre. Elle, c'était pas dans les églises, c'était plus dans les spectacles de bingo. Mais ça m'a fait penser à Alice Robbie, je sais pas pourquoi, quand je préparais la chronique. Donc, je vous le dis. Pensez aussi à Alice Robbie quand vous pensez à Etta James. Sa carrière a débuté à l'adolescence, dans le fond, dans la période où est-ce qu'elle était séparée de sa mère. Sa mère qui l'a quand même eu à 14 ans, donc le père disparu. Et inconnue. Donc, le temps où elle a été séparée de sa mère, elle est retournée, elle a commencé donc sa carrière, excusez-moi, au sein d'un groupe avec deux autres amies. Le nom de leur groupe, le trio féminin, s'appelait les Créolettes, que je trouvais quand même sympathique et intéressant à rappeler. Il y avait un producteur, évidemment, c'est toujours un peu l'histoire classique, hein, un producteur qui a assisté au spectacle, qui l'a trouvé extraordinaire. Là, c'était Johnny Otis, séduit par leur prestation, et qui a décidé, en fait, de leur proposer d'enregistrer un disque à Los Angeles. Puis, pour la petite histoire, c'est toujours intéressant de savoir des petites anecdotes comme ça. Elle avait, en fait, besoin de l'accord de sa mère, parce qu'à l'époque, elle était encore trop jeune pour donner son accord toute seule, elle était mineure, mais sa mère était en prison. Donc, ce qu'elle a fait tout simplement, c'est qu'elle a imité la signature de sa mère et hop, l'affaire était dans le sac. Et c'est comme ça que le premier album, Roll With Me Henry, est sorti et en 1955. Et c'est à ce moment-là aussi que James Etta s'est dit, un peu en fait comme Alice C.E. Robbie, c'est pas assez glamour comme nom, et elle est devenue Etta James. The Wallflower, titre de l'album qui s'est installé 4 semaines au sommet des charts, a vraiment été le début, c'est vraiment ça qui a lancé sa carrière solo. Puis c'est comme ça aussi qu'elle a enregistré, c'est là à partir des années 60 qu'elle a enregistré des tubes que vous connaissez peut-être comme All I Could Do Was Cry ou My Dearest Darling. Et elle a enregistré également deux duos avec Harvey Fuca, soit If I Can Have You et Spoonful, une chanson très dansante aussi. Par la suite, il y a eu Atlas, qui est probablement la chanson que tout le monde connaît pour Etta James, et Trust in Me aussi, en 1961. Par la suite, en fait, elle a eu beaucoup de problèmes, des trahisons, ruptures amoureuses, problèmes aussi de dépendance aux drogues dures, entre autres l'héroïne, donc pas facile, donc nombreuses périodes d'internement, mais après de nombreuses luttes, donc lutte contre le patriarcat, lutte contre sa dépendance à la drogue, elle a fait un retour dans les années 80, puis elle s'est distinguée, entre autres, par un hommage qu'elle a rendu à Billie Holiday, Mr. Lady, en 1994. Et pour les personnes qui voudraient la découvrir, pas par ses vieux hits, mais par des chansons plus récentes, en novembre dernier, elle a sorti son ultime album, The Dreamer. Donc, une chanteuse qui, quand même, c'est important de le souligner, qui s'est classée 22e dans la revue Rolling Stone sur la liste des 100 plus grands chanteurs et chanteuses de tous les temps, quand même. Et elle nous a quittés il y a pas longtemps, vendredi dernier, j'avais envie de parler d'elle parce qu'en fait, je vous dis un scoop et une tranche de vie puisqu'on fait de la radio communautaire. Je suis maintenant une chanteuse dans un groupe de blues et en ce moment, je pratique avec ferveur une chanson d'Etta James. Et je peux vous dire que on entend beaucoup parler d'elle ces temps-ci, puis tout le monde dit sa voix chaude, rauque, unique. Mais je peux vous dire que c'est vrai qu'elle est unique parce que c'est vraiment dur de chanter ses chansons, mais j'y arriverai un jour, peut-être live, qui sait.
Oui, alors peut-être même au karaoké du 8 mars.
Qui sait? Donc respect certainement pour Etta James. Ta musique restera gravée en nous à jamais. Qu'est-ce qu'on écoute comme prochaine chanson?
We'll be right back. say the road to ruin is packed with patriarchy. So let the way of women guide democracy, and from plunder and pollution and Mother Earth be free. Feminism ain't about women, no, that's not who it is for. It's about a shift in consciousness that we're bringing into war. So listen up, you fathers, listen up, you sons, and tell me which side are you on now? Which side are you? Consumers, or are we citizens? Are we gonna make more garbage, or are we gonna make amends? Are you part of the solution, or are you part of the con? Tell me which side are you on now? Which side are you on?
I'm not afraid.
To give up my love.
C'est toujours votre magazine féministe et libertaire préféré, Ainsi Squat-elle. On vient d'entendre deux chansons directement importées de la Nouvelle-Orléans. La première, c'était un extrait du nouveau disque d'Annie DiFranco qui s'appelle « Which Side Are You On? » Et la chanson, c'était aussi « Which Side Are You On? » qui est une reprise d'une chanson du mouvement ouvrier des années 30 aux États-Unis. Puis la chanson suivante était de la compositrice et interprète Teresa Anderson, que je connais pas très bien, mais qui vient aussi de la Nouvelle-Orléans.
Et fait
que c'était le genre
bien.
De thème que j'ai exploité ici. Alors, on revient au Québec avec un événement. On est vraiment dans les thèmes
dans la mort.
Assez intenses ce soir. Donc, je te laisse.
Oui, alors c'est l'Emnazon derrière le micro. Toujours en vie. Moi, contrairement à Marshad Mohammadi, qui a été tué le 6 janvier dernier par un policier du service de police de la ville de Montréal, qui a tiré sur lui à plusieurs reprises dans une station de métro, et Mohammadi est un sans-abri qui se serait abrité dans le métro et qui aurait blessé un policier qui intervenait auprès de lui. 3 balles ensuite ont été tirées sur lui. Donc, cette mort brutale-là, elle a précipité une avalanche de questions et d'appels, entre autres un sur la nécessité d'augmenter le financement des programmes offerts aux personnes sans domicile fixe ayant des problèmes de santé mentale, parce que l'idée, évidemment, c'est dans une perspective plus progressiste d'agir sur les causes et non de manière coercitive. Deux, ça met en lumière très certainement la criminalisation à laquelle fait face les personnes sans-abri, justement, et qui souffrent de problèmes de santé mentale. Puis, avec notre super gouvernement Harper au fédéral, ce qu'on voit, c'est que les services qui sont destinés à ces personnes-là sont financés quand à l'inverse, paradoxalement, le financement gouvernemental destiné à soutenir les services carcéraux, lui, explose. Hein? Donc, on voit clairement quelle lunette, quelle approche est mise de l'avant. Ça révèle aussi d'autres problèmes qu'on connaissait déjà, mais qui est toujours important de remettre sur la place publique. D'abord, le profilage social et le profilage racial qui est monnaie courante à Montréal. Les agents de police harcèlent littéralement les personnes qui trouvent refuge dans le métro. Et on s'entend que quand c'est l'hiver, peu importe la saison, mais on s'entend-tu que quand c'est l'hiver, on a envie d'être à un endroit qui est minimalement chaud? Donc, voilà. Puis ça crée évidemment un climat de ressentiment, de mépris, puis en fait, un espèce de climat très malsain entre les communautés qui sont marginalisées et la police, parce que finalement, les flics finissent par connaître, par leur petit nom, les sans-abri qui vont harceler puis qui vont couvrir de tickets et vice-versa. Donc, on comprend la tension qui est là. Puis, on est en droit de se demander très certainement, bon, les circonstances dans lesquelles Mohammadi aurait blessé un agent de police, ça demeure super flou. Il y a des témoins qui disent que c'est pas le cas, la police dit que c'est le cas, mais peu importe, on est quand même en droit de se demander pourquoi la police a jugé bon d'intervenir auprès de lui dans un premier temps, alors que les témoins ont rapporté qu'il dérangeait en fait personne. Donc, on peut se dire que dans le fond, pourquoi ils sont allés le voir? Ben, c'est parce que, comme d'habitude, ils achalent, puis ils vont faire chier les personnes sans-abri qui n'ont pas un complet veston, puis qu'il faudrait caché derrière des sacs de poubelle, bien évidemment. Donc, un, profilage racial et social. Deux, la violence et l'impunité aussi. Ça, c'est clairement mis de l'avant, ou en tout cas mis en lumière avec le cas de Mohammadi. Pourquoi? Parce que depuis 1987, plus de 80 personnes sont mortes au cours d'interventions menées par la police à Montréal, y compris les morts controversées d'Anthony Griffin, de Jean-Pierre Lizotte, de Kylian Régis, de Freddy Villanueva et l'été dernier de Mario Hamel et de Patrick Limoges, puis ça, c'est des personnes parmi tant d'autres. Au Québec, entre 1999 et le 30 juin 2011, il y a eu 339 enquêtes portant sur des interventions policières qui ont mené soit à des blessures, soit à la mort. Combien d'accusations criminelles ont été portées contre les agents? Seulement 3, et au moins 2 des 3 procès ont donné lieu à des acquittements. Donc, quand on parle d'impunité, c'est de ça qu'on parle. On parle du fait que les policiers savent très bien qu'il peut avoir débordement parce que de toute façon, ils seront pas inquiétés. Pourquoi ils seront pas inquiétés? Parce que c'est la police qui enquête sur la police. Par exemple, dans le cas de Mohammadi en ce moment, qui enquête sur les policiers? Ben, c'est la SQ. Donc, chumé ensemble, violence, impunité, profilage social, tout ça, ça peut paraître comme des mots ou des concepts, mais au bout de la ligne, il y a des personnes qui meurent, il y a des personnes qui sont blessées, il y a des personnes qui sont emprisonnées, puis on parle même pas des impacts que ça a sur la communauté, sur leur famille, puis sur leurs proches. Autre facteur dont il faut parler plus particulièrement par rapport au cas de Mohammadi, c'est le statut des personnes migrantes. Donc, des personnes qui ont soit un statut ou en attente de statut. Parce que la précarité qui est associée au statut d'immigration, c'est un problème vraiment criant, puis ça contribue à la marginalisation puis à la fragilisation de ces personnes-là. Par exemple, Farshad Mohammadi était la victime du système de double peine. Donc, ça, c'est une politique qui découle de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Puis c'est une politique qui stipule, dans le fond, que les résidents permanents, ils peuvent être déclarés inadmissibles, donc se voir retirer leur statut et même risquer l'expulsion si on leur attribue l'espèce de qualificatif nébuleux de grande criminalité. Hein, dans le fond, ça veut dire que les migrants, les migrantes qui n'ont pas obtenu la citoyenneté canadienne font face à la situation suivante qui est révoltante, c'est-à-dire emprisonnement et expulsion pour le même crime. Donc, d'où le terme de double peine. Plus spécifiquement pour Mohammadi, lui, c'est un réfugié iranien qui était parrainé par le gouvernement canadien puis qui avait reçu sa résidence permanente en 2006. Il a été reconnu coupable d'entrée par infraction et il a été condamné à une journée, OK, à 24 heures de prison en 2009. Mais plus tôt cette année-là, dans le fond, il a été déclaré inadmissible à cause de sa condamnation, puis ça, c'est même s'il avait purgé sa peine. Puis son avocat qui s'occupait de son dossier, lui, il croit, dans le fond, que l'ordre d'expulsion, il aurait pu être infirmé pour plusieurs raisons, dont le fait que l'acte criminel de Mohammadi, dans le fond, il comportait pas de violence envers un individu, puis qui a donné lieu à une sentence minimale. Mais même à ça, ça n'a rien changé. En fait, c'était encore en cours de négociation quand Mohammadi est décédé. Puis selon l'avocat, dans les derniers jours où il avait parlé avant sa mort, il disait qu'il était vraiment dans un état de panique extrême parce qu'il avait vraiment peur d'être envoyé en Iran à cause des lois canadiennes en immigration. Donc, imaginez dans le fond dans quel état il était. Lui, il était déjà paniqué à l'idée de peut-être se faire expulser en Iran quand les policiers, dans le fond, sont venus l'harceler dans le métro pour finalement l'assassiner. N'ayons pas peur des mots. C'est important aussi, peut-être pour conclure, c'est comme ça que conclut Anne-Marie Galland. Je vous rappelle que là, je vous parle d'une analyse d'Anne-Marie Galland et de Samir Shahen Hussein, qui sont tous deux militants et militantes à No One's Illegal, donc Personne n'est illégal, un collectif qui lutte sur la question des droits des réfugiés et des migrants à Montréal. Donc, le dernier élément qu'ils mettent de l'avant dans leur analyse, c'est la question de la pauvreté structurelle. C'est-à-dire que souvent, on va entendre dire, bon, mais dans le fond, les personnes qui sont sans-abri ou qui sont pauvres, c'est parce qu'ils se potent pas assez derrière. Mais eux, qu'est-ce qu'ils mettent de l'avant? C'est que dans le fond, les réalités de la vie dans la rue puis les problèmes de santé mentale qui accompagnent très souvent le fait, dans le fond, qu'une personne qui devient sans-abri, ben, va développer souvent des problèmes de santé mentale pour des raisons évidentes. Mais dans le fond, que c'est pas de leur faute à eux, mais c'est causé par un système, par une structure, par un système qui, dans le fond, c'est causé par le capitalisme. Voilà ce que j'essaie de dire. Donc, par des problèmes structurels où il y a une majorité qui travaille, puis une minorité qui s'approprie les richesses, puis ça, c'est pas juste des mots, encore une fois, je m'excuse si je suis crinquée, mais dans le fond, c'est que c'est pas juste des mots, c'est pas des concepts, puis ça se traduit par des conditions de vie absolument révoltantes et inacceptables, puis ça cause aussi, comme on l'a vu avec Farshad Mohammadi, ben ça va jusqu'à la mort, parce qu'on parle d'itinérance, on parle de détention, on parle d'expulsion, on parle de profilage racial, de violence, puis d'impunité policière. Donc maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on accepte que ça soit fait en notre nom? En tout cas, ainsi soit-elle, j'ose parler au nom de mes camarades, je pense clairement que non. Puis c'est assez ironique, puis même triste, en fait, de penser que, dans le fond, Mohammadi, il est venu ici, justement, pour trouver la sécurité, pour retrouver la justice et la liberté. Puis finalement, ben, il a été tué par des flics ici.
On finit avec une pièce musicale. Je crois que c'est Random Recipe qu'on écoute. Un groupe de Montréal.
Merci, Hélène. I'm for you this is the world you share. If you care, you might get to stare at your own culture, nature, and see the big picture. Five eyes ago, living a fast life, you ask for people. Immigration, norm, navigation, just separation from my tradition. Put that your trust in spite of the people that you don't. They all will survive. In the second chapter, buckle up and go, let's go. You know it, don't ya? It'll be you and me in the middle of a bunch of strangers. That's the way I say you just got to take it over. Books and maps.
But to have this, you can choose the important facts. Leave the other ones pending, say, oh yes and no. I know we had more than less, so go out in the streets, bare feet, the sound of the beat. You see that it's more than life, don't work, it's even in the day and night. My family is an artifact of old, you should check it out. Ready like a max, too much all we talk about. Don't care about where we at on the map, where we at on the map. Check. Buckle up, bingo, let's go, you know we don't ya. It'll be you, me, and them in a bunch of strangers. So you just got to take it over. Pack your bags and go. Just pack your bags and go. Just pack your bags and go. Go. Just pack your bags and go.
Just keep some time in a short stop and freeze it so much. I love this so much. You share, if you dare, you might get to stare at own culture and nature. I am the big picture. Fall out the skies of gold, live it up fast. Why do I have to more before? Immigration, only the key, should just integration for observation. But take it, trust and smiles with the people that you don't. If you're old with swabs, you'll be starting to check ya. But don't be going so you know it, don't ya?
On est toujours à un Siskoitel et cette fois pour la fin de l'émission. Donc merci à Tiphaine et Evelyne pour et Hélène pour vos chroniques. Merci à Evelyne pour la mise en onde. Puis on s'en va avec un petit calendrier militant quand même avant de partir. Moi je voulais annoncer 4 événements, je pense. D'abord une soirée qui a à l'agité vendredi qui vient, 27 janvier, à partir de 17h. En fait, ça commence par le lancement du livre « Faire l'économie de la haine » de Alain Deneau, d'un débat en fait qui va porter sur la liberté d'expression. Donc, Alain Deneau sera là pour lancer son livre. Ce livre, en fait, c'est publié déjà chez Éco-Société et c'est un recueil de 12 essais critiques donc qu'il a écrit ces dernières années et puis qui tous tournent autour de la censure et aussi de l'autocensure. Donc finalement, comment nous-mêmes, on s'empêche de dire des choses, mais que finalement on est mal à l'aise quand on vient à penser des choses qui sont contre la norme ou contre les idées dominantes. Et donc il parle de tout ça à plusieurs niveaux. En fait, il en parle au niveau des paradis fiscaux, il parle aussi des exploitations donc qui sont faites en Équateur ou au Mali, exploitations minières entre autres ou exploitations pétrolières. Il parle aussi donc des poursuites Bayon qui ont eu lieu au Québec. C'est vraiment un très bon livre avec plein de petits essais. Donc si ça vous intéresse le sujet de la censure ou de la liberté d'expression, venez à l'Agité donc de 5h à 7h. L'Agité, c'est au 255 Dorchester à Québec. Voilà. Donc il y a le lancement de livres à partir de 5h et à 18h30, il y a une conférence et un débat public. Donc là, vous êtes invités plus à écouter, mais aussi à partager. Et avec 3 personnes, donc Alain Deneau qui sera toujours là, Mathieu Houlcourcel, militant libertaire, et une personne de Saguenay qui viendra parler des radios poubelles à Saguenay, en fait, et des méfaits, surtout des radios poubelles à Saguenay. Donc c'est un événement organisé par le nouveau collectif anarchiste sans nom à Québec. Vous êtes bienvenus, donc 5h, 18h30. Puis si vous voulez poursuivre la soirée et vous détendre un peu, il y a donc le collectif Zik Not Bombs qui vous invite à une initiation au swing à 8h30, donc 8h30 à 9h30, toujours à l'agité. Et à partir de 10h, 10h30, il y aura une soirée dansante pour bien se défouler après tout ce dont on aura parlé. Donc ça, c'est le vendredi qui s'en vient à partir de 17h. Il y a aussi d'autres activités en fin de semaine. Il y a le Festival international du film ethnographique du Québec, si ça vous intéresse de voir des films. C'est au Musée de la Civilisation que ça se passe. Et aussi... c'est au Musée de la Civilisation cette année. Donc, à partir de vendredi et samedi, toute la journée. Vendredi soir et samedi, toute la journée. Il y a aussi le camp de formation de l'UCL qui se passe en fin de semaine à Québec. Donc, si vous si ça vous intéresse, j'imagine que vous pouvez trouver le programme quelque part. Je l'ai pas vu sur Réseau Forum, par exemple, donc je sais pas où vous pourriez le trouver. Mais programme bien intéressant, vendredi, samedi et dimanche. Voilà, donc le camp de formation. Et puis, il y a une manifestation nationale aussi le 4 février, puisque nous, à Siskoitel, on revient pas la semaine prochaine. On est dans une nouvelle programmation, en fait, et on vient en alternance avec Voix de Fait. Donc, une semaine, ce sera à Siskoitel, la deuxième semaine, ce sera Voix de Fait. Tout ça pour vous dire que maintenant, quand on va faire le calendrier militant, on va probablement annoncer des nouvelles qui viennent dans les deux semaines. Donc, la manifestation nationale du FRAPRU à Montréal le 4 février. Voilà, vous êtes tous invités. Vous pouvez aller voir sur le site du frapru.org, j'imagine, ou je sais pas exactement, mais tapez frapru sur Google et vous trouverez. Voilà, c'était un petit peu les activités militantes de Québec. On part en musique avec Anarchette, qui est un groupe, une chanteuse violoniste et puis un guitariste, entre autres. Il joue plein d'autres instruments. Ils sont originaires de Gaspésie et là on va entendre le groupe s'appelle Anarchette, j'avais pas dit leur nom, et c'est la première chanson qu'on met, Evelyne. La chanson s'appelle Miniature. Et on vous laisse ensuite passer la soirée avec Siempre Contigo. Bonne fin de soirée.